RCF. RCF, les racines du présent.
Bonjour à tous, bienvenue dans notre studio pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine avec le quotidien La Croix, et désormais, vous le savez, en codiffusion également sur les ondes de Radio Notre-Dame. Alors il faut s'en souvenir, l'histoire de France ne se conjugue pas au singulier. Certes, la centralisation qui a organisé notre pays autour de sa capitale a débuté très tôt, a été confirmée par la Révolution, achevée par l'Empire et puis parachevée par les Républiques. Pourtant, depuis toujours, les drames et les triomphes de la France, ses bonheurs et ses malheurs, se sont déroulés au moins autant à Paris que dans les régions, au sein des territoires, comme on dit aujourd'hui, ou encore en province, comme on disait autrefois. Avec notre invité aujourd'hui, nous allons revenir sur le rôle décisif et parfois méconnu des régions dans la construction de la nation. David Chantranne, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien, rédacteur en chef de la revue Napoléon Ier et Napoléon III également. Mmh. Vous êtes directeur du patrimoine de la ville de Rueil-Malmaison. Vous avez publié de nombreux livres sur les deux empires. On vous a déjà reçu à ce micro à ce sujet-là. Mais aujourd'hui, vous élargissez votre domaine de recherche et vous publiez un livre tout à fait intéressant intitulé « Chronique des territoires, comment les régions ont construit la nation ». C'est aux éditions Passé Composé. Avec vous donc, nous allons entreprendre aujourd'hui dans cette édition des Racines du Présent un voyage à travers l'histoire de France, mais vu à travers l'histoire de nos régions, de nos territoires. Nous allons donc voyager de Marseille à Colombey-les-Deux-Églises, de Grenoble à Belfort, d'Orléans à Saint-Jean-de-Luz et tant d'autres lieux. Comment les régions ont construit la nation, tel est notre thème aujourd'hui.
Les Racines du Présent. Frédéric Mounier.
Donc à la fois sur RCF et sur Radio Notre-Dame, aujourd'hui notre invité, l'historien David Chantranne, grand spécialiste des deux empires, mais qui sort de son domaine de prédilection pour publier une chronique des territoires et pour nous expliquer par le sous-titre « Comment les régions ont construit la nation ». C'est aux éditions Passé Composé. Alors David Chantranne, pourquoi sortir de votre domaine qui sont les deux épopées napoléoniennes ?
Tout simplement, comme le titre de votre émission l'indique, les racines du présent m'ont toujours passionné. Plus largement, j'ai une formation d'historien. J'étais en formation au départ à l'université de Strasbourg, puis ensuite avec Jean Tullard à la Sorbonne. Et je donne d'ailleurs quelques cours à l'université encore maintenant. Mais je reviens à mes premières amours, c'est-à-dire que les spécialisations sont très intéressantes et ça permet de peaufiner, d'analyser, d'avoir un regard encore plus précis à la fois sur les personnages, sur les épisodes, sur un regard même sur l'ensemble des éléments. Mais sous cette forme-là, au gré des conférences, au gré des rencontres, il m'est arrivé évidemment d'aller très régulièrement en France à travers...
Sur le terrain.
Sur le terrain.
Oui.
Et cette particularité de ces formations, de ces guerres, de ces rencontres historiques, de ces mariages, on va en parler, tout cela m'a beaucoup impressionné, intéressé, et avec la chance d'avoir des guides qui vous permettent de découvrir tel ou tel, et qui étaient des guides en fait locaux, qui connaissaient ça particulièrement.
Car il y a beaucoup de passionnés d'histoire.
Passionnés, évidemment.
Partout en France.
À la fois dans
les
associations.
Des hommes et des femmes qui sont des guides extraordinaires.
À la fois dans les associations, à la fois aussi dans les universités du temps libre. Enfin, il y a tout un réseau de personnes
passionnés.
Ou de groupes passionnés, exactement.
Et compétents.
Exactement.
Voilà. C'est l'occasion de les remercier ici parce que vraiment c'est eux qui font battre le cœur vivant de l'histoire. Alors on va le voir, vous décrivez une sorte de marqueterie française. Comment avez-vous pris conscience de l'importance des territoires et comment avez-vous composé ce que vous appelez votre panthéon idéal, une sorte d'historial composite, David Chantranne?
Cet historial composite, il se fait à partir de trois éléments. À la fois le patrimoine qui reste, évidemment, et qui nous permet de redécouvrir des pans entiers de notre histoire. Bien évidemment.
Ce qu'on peut voir,
oui, ce qu'on peut encore découvrir, exactement, et qui nous donne encore le pouls d'une France passée. Alors c'est pas passéiste, mon regard. Mm-hmm. C'est tout à fait au contraire intéressant parce qu'il y a aussi le travail qui est fait sur le terrain de ceux qui l'entretiennent, ce patrimoine. Donc c'est passionnant à plus d'un titre. Mm-hmm. Et puis le choix que l'on fait. Pourquoi on garde tel ou tel?
Mais oui, vous avez dû vous arracher les cheveux, non? pour faire des choix.
C'est passionnant.
Non. Vous avez assumé la subjectivité de vos choix.
Oui, parce que parce qu'il faut de la subjectivité. Oui. Sinon, ça reste froid et j'allais presque dire comme une sorte de compte rendu qui n'a pas de vie. Ça, c'est la première chose. Donc, le patrimoine. La seconde, enfin la deuxième plutôt, c'est l'ensemble de ces événements qui ne sont pas forcément des ruptures, mais qui composent justement le particularisme français. Et ces ruptures, elles se font un peu partout sur le territoire, sur notre territoire français, en Corse y compris. Et c'est ça que j'ai voulu retrouver à travers cet ouvrage. Et puis la troisième chose, vous parliez de subjectivité, c'est aussi le travail sur les archives, tout simplement. Et lorsqu'on a à la fois la visite, le regard sur l'événement, et puis qu'en ont laissé les archives et les historiens qui sont venus avant nous, eh bien, il y a une sorte de puzzle qui peut se constituer. C'est ce que j'ai voulu proposer.
Voilà, c'est ce que vous proposez, donc un puzzle. Je parlais de marqueterie. Alors, on essaiera au fil de notre conversation de sortir un peu des conclusions, d'essayer d'expliquer les constantes de notre histoire. Mais on va d'abord commencer notre tour de France, notre visite par un événement qui, il n'y a pas si longtemps, était d'actualité. Chacun a encore en tête les images et les mots de la visite du pape François à Marseille. Marseille, c'est 26 siècles d'histoire, comme le cardinal Aveline l'a rappelé en accueillant le pape François. Ça a commencé par les Phocéens. En vous lisant ce chapitre sur Marseille, David Chantrane, on comprend que l'histoire de Marseille n'a jamais été un long fleuve tranquille, ça n'a jamais été pacifique depuis les Phocéens.
Non, depuis les Phocéens, et même, j'allais presque dire, même avant. On a très peu de sources qui précèdent cette entrée des Phocéens dans Marseille. D'ailleurs, la construction même et la légende qui s'est emparée de cet épisode de l'arrivée des Phocéens est complexe. Elle est complexe, c'est-à-dire qu'on parle toujours de Protis qui est le grand fondateur de la ville. En réalité, il y aurait déjà eu une première approche faite par une expédition précédente et Protis avec son frère serait revenu en fait dans une sorte de second temps. Donc tout ça se passe il y a effectivement dans des circonstances un peu étranges et j'ai voulu montrer en quoi cette construction et cette fondation de Marseille est essentielle pour la France. Vous le dites très justement.
Alors,
c'est compliqué parce que Marseille n'est pas un long fleuve tranquille, parce qu'il y a la difficulté d'avoir d'un côté une sorte de comptoir commercial, ce que veulent faire justement les Phocéens, et puis la relation qui va s'entrecroiser avec la population locale et, j'allais dire aussi, le roi de cette période. Et donc cette imbrication va donner naissance à la population marseillaise que l'on connaît à la fin de l'Antiquité, mais qui est vraiment le produit d'un long processus d'échanges, de querelles, de luttes, à la fois dynastiques et historiques, et qui va faire justement ce que vous dites, la particularité de Marseille.
Cette ville a toujours été composite.
Oui, toujours composite, parce que lieu d'échanges à la fois culturel et commercial.
Nord-sud.
C'est l'entrée vers le pays celte.
C'est à la fois l'entrée du pays celte, et la porte ouverte vers la Méditerranée et vers l'Empire romain.
Vers l'Empire romain et vers le Levant. Donc il y a tout cet élément-là. Et qu'on va continuer d'avoir jusqu'à aujourd'hui.
Oui.
Marseille, sur des aspects beaucoup plus technologiques et j'allais dire même actuels, c'est un nœud, on ne le sait peut-être pas, mais c'est un nœud des câbles d'Internet aujourd'hui.
Oui.
Et ben ça reste finalement.
C'est la vocation.
C'est la vocation, c'est ce que voulaient aussi les Phocéens, c'est-à-dire être un nœud commercial et d'échange.
Alors Marseille a été une thalassocratie. C'est quoi une thalassocratie, David Chantrane?
C'est le monde de la mer qui domine le reste. Et cette thalassocratie, on en connaît évidemment en Grèce énormément. On a tous en tête Ithaque avec Ulysse. Voilà, ça c'est une thalassocratie, c'est-à-dire que le monde se construit autour d'un pouvoir qui est tourné vers la mer et qui reçoit aussi sa puissance de la mer. Marseille, c'est exactement ça. La difficulté qui va être ensuite, qui va avoir le jour, c'est qu'ensuite les Romains, puis ensuite le monde médiéval et l'Ancien Régime vont tenter finalement de faire de Marseille justement un lieu d'échange, mais qui soit au profit du pouvoir central.
Ah, voilà la clé.
Et la clé, elle est là. C'est-à-dire que d'où le fait qu'il y ait encore ces petites difficultés à la fois des Bouches-du-Rhône, mais même plus particulièrement de la ville de Marseille et de ses environs, vis-à-vis d'un pouvoir qui tente de la dominer et qui n'y arrivera
jamais. Vous voulez
dire,
ça a toujours été tendu?
Toujours.
Ah oui.
Toujours, parce que c'est sa vocation. On veut finalement utiliser cette puissance marseillaise dans différents moments. C'est le cas de Louis XIV, oui. Ça va être le cas de Napoléon, ça va être le cas aussi des républiques, mais sans se soucier finalement de ce qui fait la force et la richesse de Marseille, c'est-à-dire ces populations composites. On se souvient des Arméniens, on se souvient des populations maghrébines encore aujourd'hui qui font la oui. puissance et la richesse de Marseille, mais on essaie de gommer cela en disant il faut que vous rentriez dans le rang. C'est impossible.
Un dernier mot sur Marseille. Vous nous rappelez que pendant la Révolution, elle a été débaptisée et rebaptisée d'un nom extraordinaire. On l'a appelée la ville sans nom.
Oui, la ville sans nom, parce que Marseille frondeuse, parce que Marseille qui s'était livrée à d'autres, eh bien, il fallait qu'elle rentre dans le rang. Et je vous dis, c'est vraiment l'exemple typique. On en a encore des exemples dans d'autres domaines. Vous parliez du domaine, bien sûr, tout à l'heure du chrétien et du pape.
Évidemment, la christianisation.
La christianisation, c'est un
ça
élément.
Ça a commencé là.
Ça a commencé là.
Oui.
Ça a commencé là, et je le rappelle dans l'ouvrage, avec l'arrivée d'une barque, mais je ne vais pas déflorer l'ouvrage, mais d'une barque qui va marquer l'esprit. Et aujourd'hui encore, il y a cette fameuse procession des navettes de Marseille, ce petit biscuit à la fleur d'oranger de la paroisse Saint-Victor, cette paroisse Saint-Victor qui reste vraiment un lieu tout à fait important. Et puis l'autre, eh ben, cette rencontre du pape qui nous est actuelle, elle s'est faite où ? Au stade Vélodrome. Eh bien, tout est réuni, à la fois le caractère populaire et chrétien se retrouve dans Marseille, et ce particularisme de la thalassocratie, il continue d'exister aujourd'hui.
Marseille, donc 26 siècles d'histoire. Alors, on va remonter vers le nord, si vous le voulez bien, David Chantrane, et aborder Lyon. Lyon, vous nous ramenez à l'époque où Lyon était la capitale des Gaules. Lyon s'appelait Lugdunum, et c'était une autre Rome, et vous brossez ce portrait terrifiant de l'empereur Claude, qui était né à Lyon, en 10 avant Jésus-Christ. Expliquez-nous.
Claude a la particularité effectivement de naître dans le cercle habituel des villes, soit Rome, soit des villes qui sont directement à proximité, mais en marge de l'empire de l'époque, c'est-à-dire à Lyon, ce qui va devenir ensuite, on le sait, la capitale des Gaules. Mais cette particularité va énormément changer à la fois le destin de la ville et puis même le sens de ce que Rome souhaite faire pour l'avenir.
En quel sens ?
Parce que tout d'abord, il faut se protéger des invasions barbares, ça on le sait, mais il faut aussi surtout insérer ces villes qui commencent à être diffusées, parce que les troupes romaines dont on a besoin, elles ne vont pas venir progressivement de Rome et des peuples italiques, enfin de cette Italie que nous connaissons aujourd'hui, mais justement de ces territoires en marge. Et Lyon en fait partie. Et le fait que Claude soit né par les hasards de ses parents à Lyon, eh bien, porte un regard différent sur ces villes-là, et Lyon va entrer directement dans le cénacle des grandes villes qui comptent, et Lyon va y entrer par un événement tout à fait étonnant qui fait songer à des périodes beaucoup plus contemporaines, par un discours d'un empereur qui est bègue.
Oui.
Et on a en tête évidemment le discours du roi d'Angleterre qui fait ce discours alors qu'il a des difficultés à prononcer quelques mots. Eh bien, Claude prend bien sûr peut-être des cours, mais ça on l'ignore parce que les sources manquent. Mais il semblerait que moqué pour cette particularité verbale, eh bien, il est pris sur lui, et que pour défendre Lyon et la cause qu'il souhaitait, il ait fait ce discours sans justement avoir cette difficulté et le faire d'un trait, ce qui va énormément à la fois impressionner les contemporains et les auditeurs, mais surtout va permettre à cette cause d'être entendue dans tous les sens du terme.
Et donc grâce à lui, si je vous ai bien lu David Chantrane, les Lyonnais vont être exemptés d'impôts. C'était aussi un drôle de bonhomme. Vous nous rappelez qu'il a fait exécuter sa troisième épouse Messaline et qu'il a épousé sa nièce Agrippine.
Autre temps, autre mœurs, hein, voilà. Ça, malheureusement, heureusement, d'ailleurs, plutôt bon. Heureusement qu'on regarde le passé avec des regards d'historien et non pas de contempteur ou de moralisateur, parce qu'effectivement, les mœurs de l'époque étaient tout à fait étranges.
C'était des comportements assez
étranges et terribles.
Vous nous incitez à contempler un vestige archéologique, la table claudienne.
Oui.
Racontez-nous, David Chantrane.
Elle est découverte à Lyon dans des circonstances un peu troubles, parce qu'un des propriétaires fait cette découverte un peu de manière étrange. Et à partir de cette table, on comprend que ce discours a changé le destin de la ville. On en savait quelques éléments, mais là, on a le texte.
On a le texte.
On a le texte intégral, quasiment intégral.
C'est le script du discours.
C'est le script du discours. Oui. Et ce texte, eh bien, on va le protéger comme une sorte d'élément,
ouais,
d'icône et d'élément inaugural de cette ville de Lyon qui change son destin. Elle existait bien sûr avant, mais qui change de destin parce que justement, elle entre véritablement dans la romanité. Et cette romanité va faire sa particularité, j'allais dire presque jusqu'à aujourd'hui.
Alors, on continue notre tour de France à partir de votre livre, David Chantran, dont je rappelle le titre, Chronique des territoires, comment les régions ont construit la nation. C'est aux éditions Passé Composé. Et on va remonter vers le nord. On va quand même faire une petite escale à Paris, parce que Paris, il faut quand même en parler quand on parle de l'histoire de France. Vous nous rappelez Sainte-Geneviève, la colline, la montagne Sainte-Geneviève. En 451, Génovefa bouge d'or face aux Huns. Que s'est-il passé exactement, David Chantran ?
Alors tout d'abord, c'est une jeune fille qui a pour conviction d'être engagée à la fois dans la cité elle-même et aussi auprès des chrétiens parce que elle voit que son intérêt et sa formation, vraiment sa vocation, elle est d'être auprès de ceux qui souffrent à cette époque-là. Donc Geneviève, dans un premier temps, vit au milieu des autres personnes. Et puis elle récupère.
Elle vivait à Nanterre.
Elle vivait à Nanterre, ouais. Oui. Et elle revient ensuite dans sa famille à Paris, en reprenant la charge de son père, qui est une sorte de maître du palais, enfin quelque chose qui est un peu particulier, qui va être en train
c'est
de se faire.
C'est la haute fonction publique.
Oui, ouais. C'est ça. Mmh. Et comme c'est une femme, elle se dit que, d'une certaine manière, il va falloir qu'elle fasse ses preuves différemment des autres. Et que peut-être les épisodes qui vont arriver seront là pour justement montrer sa force, sa conviction dont je vous parlais, et la façon dont il faut la conduire. Et justement, l'invasion des Huns arrive, hélas pour elle, dans des moments tragiques, parce qu'elle perd un certain nombre de membres de sa famille, parce que les destructions sont importantes. Mais elle se dit que c'est peut-être un appel du ciel envers elle. Et donc, elle prend en main son destin en essayant de réunir autour d'elle, non pas les hommes, mais justement uniquement les femmes, en leur disant, c'est vous qui avez l'avenir entre vos mains. Et par vos prières, par votre force et par votre présence sur les remparts, nous pouvons repousser ces attaques insensées.
Et les Huns, finalement, ont fait demi-tour.
Alors, les Huns ont fait demi-tour.
Mais on dit que...
Oui,
ils l'ont fait de leur plein gré.
Les circonstances sont un peu troubles, qu'on ne sait pas si, parce que l'objectif était Orléans véritablement d'un point de vue stratégique pour Attila et ses hommes, ou alors parce que cette défense a été si importante, ou au contraire, encore une fois, parce que une maladie mystérieuse frappait les alentours et que les Huns se méfiaient peut-être d'une épidémie. Bref, en attendant, est-ce que tout cela a servi ? Ça, c'est indéniable. Ça a servi à la fois à ce que la chrétienté s'installe à Paris, à ce que la figure de Geneviève soit aussi une figure de proue et que autour d'elle chacun s'y rallie, et surtout faire en sorte que Paris prenne une place beaucoup plus importante qu'elle ne l'avait auparavant. Et j'allais dire, à cause d'elle ou grâce à elle, eh bien, nous avons cette capitale parce que elle devient un phare de la chrétienté et un phare aussi français de manière plus large.
Et il faut rappeler que la statue de Sainte-Geneviève sur l'un des ponts de Paris aujourd'hui est volontairement tournée vers l'Est, c'est-à-dire face aux hordes venues de l'Est. Alors on va faire une première pause musicale, si vous voulez bien, David Chantran, à partir de votre livre, donc Chronique des territoires, comment les régions ont construit la nation. C'est aux éditions Passé Composé. Autour de Sainte-Geneviève, justement, on va écouter un extrait de la bande originale du film Tous les matins du monde, réalisé par Alain Corneau, dont on se souvient avec Gérard Depardieu et Jean-Pierre Marielle, eh bien c'est la sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont de Paris, interprétée par Jordi Savall. C'était donc un extrait de la bande originale du film « Tous les matins du monde » par Alain Corneau. C'était la sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont de Paris, interprétée par Jordi Savall.
Les racines du présent. Une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Au micro Frédéric Mounier, nous sommes en compagnie de l'historien David Chantran, auteur d'un livre absolument passionnant intitulé « Chronique des territoires, comment les régions ont construit la nation ». C'est aux éditions Passé Composé. Avec lui, donc, nous suivons un tour de France des hauts lieux de notre histoire pour nous les remémorer. Et ça sera l'occasion pour nous aussi d'essayer de comprendre quelles sont les constantes de notre histoire. Alors nous avons fait escale à Marseille, à Lyon, à Paris, et forcément on ne peut pas éviter l'escale de Reims, David Chantran, avec ce fameux baptême de Clovis. On se souvient aussi d'une autre visite pontificale qui était la visite de Jean-Paul II en 1995, si je ne me trompe pas. Il faut rappeler que Clovis était le monarque d'une province romaine de Belgique, que dans ses débuts il avait cherché d'abord à combattre l'influence chrétienne, puis finalement il avait décidé de se placer politiquement dans la lignée des chefs romains convertis. Ce baptême avait avant tout, David Chantran, un objectif politique.
Complètement. Il est d'ailleurs uniquement politique.
Oui.
Mais il est provoqué aussi par un double événement. Tout d'abord parce que dans la lutte qu'il mène, Clovis se retrouve dans un moment où il est acculé et qu'il pourrait perdre la bataille décisive de Tolbiac. Et en faisant appel au dieu de son épouse, eh bien, elle se rend compte que l'épisode qui devait être fatal à ses armées, finalement, devient une victoire inespérée. Alors, ça le trouble. Ça, c'est un aspect personnel. Et puis, le deuxième élément, encore plus intime, j'allais dire, c'est la protection qu'accorde justement son épouse Clotilde à leur fils. Mmh. Qui est gravement malade, et par ses prières, parce que le dieu de Clotilde sera magnanime, eh bien l'enfant est sauvé. Et ces deux aspects vont jouer à plein pour toucher au cœur du roi, et Clovis fait cette conversion parce que politiquement elle est importante, parce que c'est l'Église qui protège et qui surtout sert d'unité aux différentes populations. Donc ça, c'est le premier aspect, donc politiquement, et puis surtout il se fera encore plus romain que les Romains. Et donc par ce double aspect, eh bien Clovis accepte que Saint-Rémy, le futur Saint-Rémy, mmh, procède à son couronnement. C'est un épisode véritablement qui le fait entrer à la fois dans l'histoire, parce qu'on en parle encore aujourd'hui, et aussi fait entrer plus largement Reims et la France dans une histoire beaucoup plus ouverte qu'elle ne l'était auparavant.
Alors il faut rappeler qu'il entraîne avec lui les 3000 hommes de son armée. Est-ce qu'on peut dire que ce baptême de Clovis à Reims est le début de cette fameuse alliance du glaive et du goupillon, David
Chantran ? Complètement, complètement. Oui. C'est ce moment-là qui le marque. C'est non seulement symbolique, mais c'est aussi, comme vous le disiez, politique. Le fait que la conversion des 3000 soldats se fasse, c'était une tradition, parce que lorsqu'on était un roi franc,
oui, ça se faisait.
Ça se faisait.
Oui.
Mais là, il le fait dans un moment, j'allais dire, de conviction profonde.
Mmh.
Donc, cet emportement, cet engagement va vraiment marquer les esprits, et vous avez tout à fait raison. Cette alliance de glaive et du goupillon se fait par un événement fondateur, avec, on le sait, des éléments surnaturels et tout à fait importants qui l'entourent, avec l'arrivée de la colombe, avec des éléments. Et même les personnes qui étaient les plus susceptibles de repousser et de refuser cette conversion ont été marquées par cet épisode. Donc ces chroniques des territoires sont là aussi pour rappeler que les témoins sont aussi un élément majeur dont il faut prendre conscience.
Alors avant de quitter Reims pour Poitiers, on va parler de Charles Martel. Peut-être une dernière précision sur ce baptême de Clovis. Nous étions traversés à l'époque par des querelles théologiques extrêmement importantes.
Ouais.
Et donc peut-être vous pourriez nous dire un mot de l'arianisme, qui était quelque chose de très très important à l'époque.
Oui, et cet arianisme, justement, Clovis va y mettre un terme en faisant le choix d'entrer dans la lignée de cette tradition que porte Rémy. Et donc, ce qu'avaient pu connaître auparavant des gens, j'en parle justement de Dagobert à Clichy au moment de son mariage, et que même encore certains souverains vont essayer de retrouver, parce que il y a aussi une volonté stratégique hein, de réunir ceux qui ont pris des chemins différents. Eh bien, Clovis, par sa conviction profonde et par son choix définitif, finalement presque met un terme à toutes ces querelles et montre qu'il n'y a qu'une seule tradition qu'il faut respecter. Et cette tradition, c'est celle de la chrétienté que nous connaissons aujourd'hui.
Alors, on va descendre vers le sud-ouest après Reims, Poitiers. Poitiers était une ville très très chrétienne. Charles Martel à Poitiers, que s'est-il vraiment passé? On sait qu'il y a une sorte de polémique. Est-ce que vraiment ça a été une grande victoire de la chrétienté face à un islam invasif, comme on dirait aujourd'hui, ou est-ce que ça a été simplement une simple tentative de razzia qui a été déjouée, David Chantran?
C'est un peu les deux.
Oui.
C'est un peu les deux, c'est-à-dire que il y a une volonté évidemment de razzia parce que c'est le nerf de la guerre et que justement, comme son nom l'indique, il faut s'enrichir à travers ces razzias et montrer sa puissance.
Ce qui était courant à l'époque.
Ce qui était très courant. Ouais. Mais l'autre aspect, c'est que ces pillages, ils sont faits dans une direction qui va inquiéter le pouvoir central parce que Charles Martel doit contenir les armées adverses. Cette crainte, c'est que l'on atteigne une tour. Mmh. Tour qui est un lieu de sanctuaire très important, on se souvient de Saint-Martin et autres. Et donc la route qu'empruntent justement ces razzias arabes, elle se fait à Bordeaux, puis on arrive à Poitiers, et là ça inquiète effectivement, et donc Charles Martel est envoyé justement pour mettre un terme à ces charges des cavaliers. Donc il arrive en étant indécis parce que il ne sait pas véritablement quel type d'armée va se trouver face à lui. Mais il le fait avec une conviction profonde et une force militaire organisée, stratégiquement sûre, et une tactique qui est appliquée à la lettre en mettant tous ses alliés sur la conviction qu'on va y arriver en utilisant son projet à lui et non pas en travaillant de manière autonome. Et cette action, elle va non seulement montrer l'efficacité d'une armée, j'allais presque dire française avant l'heure. Ça, c'est la première chose.
Car la France n'existait pas.
La France n'existe pas encore. Oui. Mais justement, en s'alliant à différents duchés, différents comtés, parce que c'est encore le moment, on est dans une période autour des Carolingiens.
Oui.
Et bien, cette période-là montre qu'un pouvoir central fort permet justement à ces duchés, à ces comtés d'être protégés et de pouvoir repousser des envahisseurs éventuels. Ce qu'on n'avait pas connu auparavant parce qu'il n'y avait pas d'idée finalement.
Donc ça a été vraiment un moment important.
C'est un moment important.
Non seulement face aux Sarrasins.
Exactement.
Mais dans la Constitution.
Exactement. Oui. D'unité provinciale, d'unité militaire et d'unité aussi chrétienne, encore une fois, parce que Charles Martel le fait au nom justement d'une défense d'une religion vis-à-vis d'une autre qui tenterait peut-être de faire ce qu'elle a fait par exemple en Espagne en particulier.
Alors on a évoqué Clovis, on a évoqué Charles Martel, on va évoquer Charlemagne, Guillaume le Conquérant, Aliénor d'Aquitaine. Tout au fil de votre livre, David Chantran, cette chronique des territoires aux éditions Passé Composé, on semble voir apparaître plusieurs constantes. Je voudrais que vous soyez peut-être plus précis là-dessus. On voit des grands hommes et des grandes femmes aussi, providentiels, qui jouent un rôle un peu nodal, un peu essentiel dans la constitution du pays. Et puis on voit aussi le rôle des violences, qu'il s'agisse de violences civiles, religieuses ou militaires. On a le sentiment, en vous lisant, que au fil des siècles, notre pays s'est construit avec d'une part des grands hommes et des grandes femmes, et d'autre part des violences à répétition, David Chantran.
Ces deux éléments sont imbriqués et j'allais dire que c'est aussi notre particularisme français. Tout d'abord parce que nous sommes faits de différentes peuplades, il faut l'accepter comme elles sont, qui ont au fil du temps, parce que nous sommes à un carrefour aussi des routes.
On est au bout de l'Europe.
On est au bout de l'Europe et on est au carrefour justement du nord et du sud, de ce particularisme. On a à la fois le caractère méditerranéen dont on a parlé, à la fois le caractère celte, à la fois le caractère romain. Ouais. Et puis on a quand même...
On a le beurre et l'huile d'olive.
Oui, c'est ça. Et puis cette particularité qui est que notre France, elle se fait à partir des Francs dont on vient de parler. Oui. Donc elle vient de l'Est. Et justement, cette richesse, eh bien, il faut attendre pour justement la rendre plus efficace. Il faut des destins hors du commun. Ces hommes et ces femmes dont vous parlez.
Des cristallisateurs, en quelque sorte.
Ces cristallisateurs, des gens qui vont permettre justement de pousser plus avant, alors que tout paraissait un petit peu bloqué.
Disparate,
exactement.
Bloqué. Ouais.
On a des sociétés, des éléments constants qui ne vont pas bouger pendant plusieurs siècles. Sur les, notamment, c'est ce que vous expliquiez sur, vous le dites, hein, sur les, l'huile d'olive.
Ouais.
C'est un élément qui est tout à fait constant. Mais au-delà de cela, alors qu'il y a des changements de régime, des changements de dynastie, choses comme ça, il y a aussi des épisodes historiques qui vont marquer véritablement les esprits et qui vont bouleverser. Mmh. On a parlé de Charles Martel, on pourrait parler aussi à Compiègne, on pourrait parler de cette demeure des rois avec Louis de Lebègue, de Guillaume le Conquérant à Caen.
Oui.
C'est des moments qui indiquent bien que lorsqu'il faut forcer son destin, on emporte avec soi non seulement bien sûr ses armées ou les personnes qui vous entourent dans cet aréopage qui est royal ou comtal ou ducal, mais au-delà de ça, il y a aussi tout un aspect des populations qui sont emportées avec elles. C'est-à-dire qu'il y a une fierté ou au contraire une perplexité vis-à-vis des puissances qui sont en train de se faire jour. Et de la même manière, on parlait de Geneviève tout à l'heure, on pourrait parler d'Aliénor d'Aquitaine, on pourrait parler d'Anne de Bretagne. Ces figures féminines vont énormément compter parce que on s'identifie et surtout on comprend que ces femmes qui avaient beaucoup de difficultés à s'imposer l'ont fait dans un monde d'hommes avec des codes qui n'étaient pas forcément les leurs et qu'elles ont justement dépassé leurs conditions. Et c'est un exemple majeur justement qui a fait la particularité de la France.
Et puis parfois la France se dépasse elle-même. Vous nous contez un épisode méconnu de l'histoire du Mont-Saint-Michel. On croit tout savoir du Mont-Saint-Michel. Mais en fait, vous nous rappelez que François Ier avait lancé Jacques Cartier à la conquête du Canada face à Charles Quint, il faut le rappeler. Et ça s'est fait au Mont-Saint-Michel, David Chantran.
Exactement. Le roi François Ier se trouve pour une visite de son royaume et il fait halte au Mont-Saint-Michel où on le fait rencontrer un navigateur hors pair qui vient de Bretagne, originaire de Rothenneuf aujourd'hui, dans un lieu qui est peut-être méconnu mais qui a une grande ambition, celui de faire découvrir à la France, parce qu'on est un peu pris de court par les hispaniques, à la fois espagnols et portugais, de faire découvrir une route en direction des Indes, mais qui passerait par le nord.
Ben oui.
Et c'est tout à fait novateur. Le roi y croit et il se dit qu'on pourra enfin y accéder en faisant confiance à ce navigateur qui est Jacques Cartier.
Et ça se passe au Mont-Saint-Michel. On va faire une deuxième pause musicale, si vous voulez bien, David Chantran. On va écouter la ballade de Jacques Cartier, interprétée par un groupe québécois qui s'intitule « Qui m'aurait cru ?» La ballade de Jacques Cartier. La ballade de Jacques Cartier, interprétée par le groupe québécois Qui m'aurait cru.
Les racines du présent, Frédéric Mounier.
Nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'historien David Chantran autour de son livre « Chronique des territoires, comment les régions ont construit la nation ». Et donc nous parcourons nos territoires, nos régions, et nous essayons de voir en quoi Marseille, Lyon, Reims, Poitiers, le Mont-Saint-Michel et tant d'autres que nous allons parcourir ont été à l'origine, en quelque sorte, de cette marqueterie que constitue la France aujourd'hui, que constitue notre territoire. Alors, en 1627, La Rochelle est assiégée par Richelieu. Alors, on a une image de marque de Richelieu, David Chantranne, qui est voilà l'homme d'État, l'unificateur, celui qui en fait a gouverné aux côtés et peut-être au-dessus de Louis XIII. Il faut rappeler que ce siège de La Rochelle face à Richelieu, c'était un épisode absolument ultra violent de la guerre de religion qui a cisaillé notre histoire de France, David Chantranne.
Oui, c'est un épisode tragique. Des 28 000 habitants, il n'en restera que 5 000 à l'issue de ce siège très long. Richelieu, vous l'avez rappelé, dans ce contexte de guerre de religion, lance cette opération. Il le fait au nom du roi Louis XIII, qui est malade et qui le laisse véritablement agir de manière autonome et volontaire. Il a à ses côtés surtout un personnage que tout le monde connaît, la fameuse éminence grise du père Joseph, qui est un stratège hors pair dans tous les domaines, et là qui va se révéler un stratège hors pair d'un point de vue militaire. Les Britanniques prêtent main forte aux troupes assiégées pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'on est en guerre évidemment contre elles, et surtout parce qu'il y a un aspect religieux très important. Les Anglicans prêtent main forte aux protestants en se disant que ça pourrait aussi déstabiliser d'un point de vue politique et religieux la France de l'époque.
La France catholique.
Bien évidemment. Et qui mieux que justement Richelieu, qui a la double particularité d'être à la fois cardinal et d'être aussi premier ministre de l'époque, le titre n'existe pas véritablement, mais c'est tout à fait le cas, pour justement montrer qu'il va défendre coûte que coûte son idée et protéger la France en justement essayant de faire rompre ce siège de La Rochelle.
Et donc on évoque à propos de ce siège aujourd'hui, il y a une expression que j'ai trouvée dans votre livre, c'est la Vendée du protestantisme.
Oui.
À ce point-là.
Oui.
Dans la mémoire collective, c'est resté comme ça.
Complètement. Ouais. Alors j'aurais pu justement vous parler de la Vendée, j'aurais pu évoquer la Vendée comme autre épisode.
C'est vrai.
C'est un élément tragique et terriblement important qu'il faut rappeler pour l'histoire. Mais j'ai voulu choisir cet épisode du siège de La Rochelle. D'ailleurs, c'est la couverture du livre avec ce très beau tableau de Motte du 19e, bien sûr, qui est postérieur. Mmh. Mais pour montrer que déjà à l'époque, il y a eu d'autres Vendées, entre guillemets, et que ces moments de, il faut le dire, de guerre civile.
Guerre civile religieuse.
Religieuse.
Oui. Et religieuse, politique.
Politique.
Voilà.
Et d'influence.
Tout ça a été très imbriqué.
Et d'influence. Mmh. Et j'allais dire même plus largement européenne, parce que au-delà de ça, c'est une sorte de guerre mondiale avant l'heure finalement, parce que les Europes de l'époque des 16e et 17e siècle, cette Europe-là, ces Europes-là, parce qu'elles sont diverses, eh bien elles se cherchent querelles constamment, et ça va durer jusqu'en 1914, j'allais dire, qui va être finalement le tombeau de nos illusions. Donc ça commence à ce moment-là pour la France, et ce siège de La Rochelle va à la fois bien sûr marquer durablement la ville elle-même lorsqu'on se rend sur place, parce que le livre est construit comme ça.
Vous êtes allé voir sur le terrain.
Je vais sur place, j'entre sur place comme une sorte de...
Touriste honnête homme.
Oui, mais et lambda aussi, c'est-à-dire conduire le lecteur en se disant que découvre-t-on d'une ville aujourd'hui.
C'est ce qui fait l'intérêt de votre livre aussi.
Et ensuite, d'entrer dans l'épisode historique, donc venir dans le passé pour essayer de comprendre ce moment important, en quoi il a changé le destin, en particulier de Richelieu, qui va ensuite constituer sa grande idée, c'est-à-dire la raison d'État. Au-delà de toutes les difficultés, au-delà des moments de troubles et des dissensions entre les différentes luttes d'influence, il faut une raison d'État, et cette raison d'État ne doit jamais déroger ce que vont essayer de tenter de récupérer ensuite ses successeurs dans des régimes et des dynasties différentes. Et puis la dernière chose, eh bien, ce qu'il reste de cet épisode aujourd'hui dans la ville, et j'allais dire cet aspect patrimonial, il est très important parce que c'est aussi une façon de transmettre notre héritage et notre patrimoine aux générations futures.
Et vous écrivez, David Chantranne, après cette victoire, l'absolutisme des Bourbons ne sera plus contesté jusqu'en 1789.
Jusqu'en 1789, un petit peu par les parlements, mais ce qu'il faudrait aussi évoquer, parce qu'il y a aussi des luttes internes qui se sont fait jour, mais effectivement, tout le monde connaît ces fameux épisodes révolutionnaires de 1789 et qui vont suivre et qui vont mettre à mal, évidemment, le pouvoir absolutiste, ça c'est indéniable, mais la centralisation et la raison d'État voulue par Richelieu ne seront jamais remises en cause, à la fois par les Jacobins, par Napoléon et par les régimes successifs.
Et par les républicains. Donc là, on parlait tout à l'heure des fractures, là il s'agit d'une constante.
C'est une constante.
Une constante de notre histoire.
Exactement, et cette constante, justement, elle se retrouve à différents moments, mais Richelieu est le moment capital, véritablement, et Louis XIV saura s'en rappeler dans la façon dont il mènera ses politiques ensuite, en gardant en mémoire ce qui avait été fait par Richelieu, en particulier à La Rochelle.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, David Chantran, des fractures qui ont traversé notre histoire? On peut en évoquer plusieurs, entre donc, on vient d'évoquer les protestants et les catholiques, on évoque le Nord et le Sud, la Languedoc et la Languedoc, les révolutionnaires, les contre-révolutionnaires, les monarchistes, les républicains. Est-ce que vous discernez en tant qu'historien, à travers ce voyage que vous avez fait dans nos territoires, quelques constantes dans nos fractures, David Chantran?
Ces fractures, elles ont été nombreuses, elles sont effectivement constantes et c'est ce qui fait aussi notre richesse aussi, notre intérêt, mais elles ont été difficiles à rassembler.
Oui.
Pour ce faire, justement, il fallait une volonté. Louis XIV a été un élément et un roi qui a souhaité cela. C'est-à-dire que lui qui avait connu la Fronde, lui qui avait connu justement les tentatives de soulèvement dans les provinces, s'est dit qu'il fallait vraiment, pour que justement la paix soit instaurée au sein même de la nation, il fallait faire des choix forts. Parfois, c'était des choix qu'on peut contester encore aujourd'hui. On le sait vis-à-vis, par exemple, du colonialisme ou du précolonialisme, oui, avec l'esclavage. Mmh. Parfois même avec des volontés de lutte, notamment contre les protestants. On se souvient de sa rupture fondamentale du traité de Fontainebleau qui met fin finalement à l'édit de Nantes. Mmh. Enfin, il y a des moments très forts de manière dramatique. Mais au-delà de ça, il a souhaité véritablement que les dissensions soient absoutes et surtout soient réunies dans une seule et même ambition. Et cette ambition, c'était qu'il y ait une unité nationale. Et j'allais dire que la rupture que nous connaissons de la Révolution ou d'autres moments tragiques de notre histoire, 1870, 1940, eh bien, cette volonté d'unité, elle s'est faite jour à la fois par cet héritage que nous sommes transmis à travers les siècles, mais aussi par des personnages importants. Mmh. J'ai parlé de Louis XIV, et évidemment, comment ne pas parler de Napoléon, qui a fait justement cette unité, lui qui était à l'extérieur de ces luttes partisanes, et qui a voulu justement réunir les Frances, comme vous le disiez, la Languedoc et la Languedoc, la lutte des Jacobins vis-à-vis des monarchistes, la lutte qui s'était fait jour entre ceux qui s'étaient fait la Révolution et ceux qui étaient contre. Eh bien, Napoléon, qui venait de Corse, était peut-être le seul qui pouvait aussi mettre un terme à tout cela, parce qu'il avait un regard beaucoup plus distant et avec beaucoup plus de hauteur que ne pouvaient les avoir les personnes qui l'entouraient.
Mais cet épisode napoléonien, au regard de l'histoire de France, n'a pas duré très longtemps.
Non.
Qu'en est-il resté fondamentalement, David Chantran?
240 réformes.
Oui.
Des institutions.
Des piliers de granit.
Oui, c'est ce qu'on appelle, oui, effectivement, ce que vous dites, les masses de granit.
Masses de granit.
Et,
oui.
Et puis surtout, se dire que à l'issue de la terreur, il fallait trouver une solution. C'était non seulement ingouvernable, mais en plus c'était dangereux d'un point de vue d'unité et de lutte de l'extérieur. Bien sûr, on a tous en tête Valmy, mais sans l'arrivée de Bonaparte en 1799, on est reparti, j'allais dire, pour une nouvelle lutte interne, et peut-être la France n'existerait-elle plus.
Parce que, justement, elle aurait pu exploser.
Complètement.
Entre l'Ouest, l'Est.
Oui, parce que.
Entre ces particularismes.
On n'a pas la
même. C'est un danger permanent.
On n'a pas la même langue. On n'a pas la même culture. On n'a pas les mêmes aspirations. Et on se dit, alors qu'il y a eu quand même cette fête de la Fédération 1790, qui est un moment, j'allais dire, idéaliste, on se dit, ça pourrait très bien basculer dans un autre temps. Et Bonaparte, qui vient, j'allais presque dire, de nulle part pour les gens de l'époque, il a fait ses classes effectivement dans les écoles royales militaires.
Il était disruptif, comme on dit aujourd'hui.
Il était disruptif, et bien ce côté disruptif va lui servir pour dire, mettons-nous autour d'une table, mettons fin à la guerre de Vendée, c'est ce qu'il va faire, mettons fin aux luttes partisanes, c'est ce qu'il va faire, et mettons ensemble toutes les forces diplomatiques pour faire une paix continue. Et c'est ce qu'il fait avec le traité d'Amiens. Il a fait la paix avec les Autrichiens, les Américains, ensuite les Anglais, ce que personne n'imaginait, dans une sorte de seconde guerre de 100 ans qui s'était mise en place depuis tellement longtemps. Et il le fait. Alors ça ne va pas durer parce que il a de l'ambition, il est provocateur, et puis parce que il gêne.
Il succombe à ses propres défauts.
Oui, en fait. Et puis parce qu'il gêne aussi les monarchies environnantes, parce que il apporte sur un plateau un élément qui a beaucoup choqué à l'époque, l'égalité.
Oui.
Et cette égalité, il n'en fait pas uniquement qu'un élément sur un des frontons de nos mairies, mais il en fait justement une politique générale, c'est-à-dire, quelles que soient vos origines, quelle que soit votre couleur de peau, quelles que soient vos convictions, nous avons un destin commun, et ce destin, c'est d'être français.
Alors, je constate que quand on invite David Chantrane, même pour parler de l'histoire de France, on parle forcément de Napoléon. Alors, on va arriver bientôt au terme de cette émission. Je voudrais qu'on conserve le temps de parler d'un autre grand homme disruptif, Charles de Gaulle. On va en parler dans un instant. Mais avant, peut-être une petite parenthèse sur un épisode méconnu. Nous sommes en 1871, nous sommes à Belfort. Belfort est protégé par le colonel d'Enfer, et Belfort n'a pas été occupé. C'est une histoire très singulière que vous nous rappelez. On connaît la place d'Enfer-Rochereau à Paris. On connaît le lion de Belfort qui est tourné vers l'ouest, vers la France, sur la place d'Enfer-Rochereau. On ne sait peut-être pas que le territoire de Belfort a été créé spécialement en 1922. Que s'est-il passé exactement à Belfort face aux Prussiens, David Chantrane?
Le colonel d'Enfer est envoyé en mission pour protéger la ville dans un contexte très délicat. La ville est prête à tomber parce que les troupes prussiennes et allemandes, parce qu'elles ne sont pas que prussiennes, tentent par tous les moyens de faire tomber les différentes villes protégées.
Et que les armées françaises étaient en débâcle absolue.
En débâcle absolue. Enfin, on se souvient de Bazaine à Metz, on se souvient de ce qui s'est passé pour MacMahon, et on sait que Napoléon III a été obligé de rendre le pouvoir, ou du moins de se rendre...
Oui, de se rendre
le 2 septembre à Sedan. Donc, dans ce contexte-là très délicat, d'Enfer fait des miracles, arrive à protéger la ville et le fait tant et si bien qu'il sera l'un des derniers à combattre, alors que les forces qui sont face à lui sont 5 à 10 fois plus importantes. Et le fait de cette défense héroïque, alors que le pouvoir à Paris lui intime l'ordre à ce moment-là de laisser les choses en place et de se rendre, il se refuse. Ça rappelle évidemment d'autres combats désespérés, Cameron par exemple avec la Légion, ou alors le Fort de Vaux en 14-18. Eh bien, d'Enfer, par cette conviction et par cette défense héroïque, va faire l'admiration de ses adversaires. Il va pouvoir se rendre, mais avec les honneurs militaires. Et par cet exemple-là, eh bien, les Allemands, parce que le territoire n'est pas aussi très stratégique, il faut bien le reconnaître, hein, d'un point de vue ni économique ni politique, eh bien, va faire en sorte que Belfort, qui faisait partie du Haut-Rhin, reste française, alors que le Haut-Rhin,
en 1871,
évidemment, et puis cette partie qu'on appelle aujourd'hui la Moselle, eh bien, deviennent allemandes.
Ouais.
Ce qui n'est pas le cas de Belfort, et qui va devenir notre 90e département, vous le savez, en 1922, vous l'avez rappelé, et Belfort, elle le doit à cette déférence héroïque, et au fait justement qu'il y ait ce symbole du lion. Ce qui est un élément aussi très important, cet élément symbolique, il est fait par un personnage qu'on connaît, un sculpteur forcément célèbre,
Bartholdi. Bartholdi, qui est l'auteur de la Statue de la Liberté à New
York.
Et il construit à Paris.
Et il construit donc ce lion avec un élément encore un peu provocateur. Il fait tourner effectivement vers l'ouest, vers la France, puisque c'est le destin de Belfort maintenant qu'elle
de rester
est devenue
en France.
Et de rester en France. Mais forcément, elle tourne le dos et donc la croupe à ce lion. Et il tourne la croupe à l'Allemagne. Et donc, forcément, effrayé par les conséquences que ça pourrait avoir d'un point de vue diplomatique, le gouvernement français ne viendra pas inaugurer ce lion de Belfort réalisé par un colmarien, Bartholdi, mais au contraire, c'est Bartholdi lui-même qui paiera l'ensemble des festivités pour inaugurer ce lion. Et ce lion, eh bien, sans sa langue, mais ça c'est une particularité que je raconte dans le livre, ce lion reste un symbole à la fois de la défense héroïque et de la fierté française, finalement, d'un territoire qui est devenu notre 90e département.
Alors, il y a eu ces trois guerres face aux Allemands, 1870, 1914, 1939, et puis il y a eu, en 1958, cette réconciliation entre la France et l'Allemagne, réconciliation auquel a présidé le général de Gaulle. On va voir comment les actualités françaises ont traité le 17 septembre 1958 l'arrivée de Konrad Adenauer à Colombey-les-Deux-Églises pour rencontrer Charles de Gaulle.
Ce village tranquille connaissait ce dimanche-là une animation extraordinaire. Un grand événement était annoncé. Une voiture devait venir de l'Est. Le chancelier Adenauer venait rencontrer le général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises. Deux grilles et plus encore pour faire respecter la discrétion du lieu. certains avaient déjà trouvé des échelles. Les téléobjectifs voient loin, mais pas cependant à travers les murs. Mais finalement, de l'autre côté des grilles, la caméra a pu enregistrer la poignée de main du chancelier allemand et du président du Conseil français qui ne s'étaient jamais rencontrés. On peut imaginer qu'au cours de l'entretien, les deux hommes d'État ont convenu que Français et Allemands sont désormais appelés à vivre d'accord et à travailler côte à côte.
Nous étions donc le 17 septembre 1958, c'était la première rencontre entre Charles de Gaulle, à peine arrivé au pouvoir, et puis le chancelier allemand Konrad Adenauer. Vous consacrez un chapitre à cette rencontre, David Chantrain, dans votre livre « Chronique des territoires, comment les régions ont construit la nation ». C'était un épisode absolument hallucinant, on sortait à peine de la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, ça faisait 13 ans, et finalement il fallait l'engagement de ces deux hommes, qui avait été tellement marqué. Alors le général de Gaulle, inutile de rappeler ce qui s'est passé de juin 40 jusqu'à la libération de Paris et même au-delà, puisque comme je le rappelle dans les chroniques des territoires, il n'y a pas que Paris, et bien au contraire. Mais cette rencontre, elle est forte parce que Adenauer était un opposant nazi. Il a été véritablement un homme qui a souffert de s'être opposé à la puissance de Hitler. Et lorsqu'il arrive au pouvoir, cet ancien avocat a pour volonté de faire oublier, si l'on peut le faire, tout ce qui s'est passé. Donc, il le fait avec beaucoup de difficultés vis-à-vis du regard international, vis-à-vis de donner des gages par rapport à ce qui est en train de se construire.
Et vis-à-vis de sa propre opinion publique.
Et vis-à-vis de sa propre opinion publique. Mmh. Parce qu'il faut finalement battre sa coulpe et essayer de montrer que on peut retrouver la confiance de nos voisins en montrant sa bonne volonté. Et cette rencontre de Colombey, elle est là justement, elle arrive à point nommé. On est en septembre 58, le général de Gaulle revient aux affaires. Il pourrait faire inviter Adenauer à Paris et tout le monde aurait compris. Là, il le fait dans le cadre intimiste, strictement privé de sa maison, de la Boisserie. Et il le fait en se disant que la rencontre de Colombey, cette discussion se fera non pas sous les ordres de la République, mais de manière beaucoup plus simple et accessible.
Mais d'homme à homme.
Exactement, d'homme à homme. Mm-hmm. De ceux qui ont été balayés justement par cette Seconde Guerre mondiale qui a tant changé à la fois les hommes et qui a fait des drames familiaux et plus largement internationaux. Donc, cette rencontre entre deux hommes qui n'ont plus rien à perdre finalement. Qui aurait pu.
C'est la clé, à votre avis?
Oui, oui. L'un avait été condamné par contumace, s'est retrouvé finalement aux affaires, a été balayé ensuite par des débuts de la 4ème République, revient de manière quasi inespérée parce que le contexte le réclame.
Algérien, oui.
Exactement. Et l'autre, Adenauer, parce qu'il n'était pas destiné à avoir ce destin. Et il se dit qu'en prenant son bâton de pèlerin et en venant à Colombey, eh bien, il peut décider du sort non seulement de l'Allemagne elle-même, mais de ce destin européen qui est en train de se reconstituer, comme je l'avais rappelé dans l'épisode de Verdun, qui était au moment des petits-fils de Charlemagne, a été un moment de séparation.
Oui, alors c'est fascinant, nous sommes sur les territoires de l'Est, Colombey les deux églises, et puis il faut le rappeler, ces deux hommes, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, se retrouveront à la cathédrale de Reims.
Bien sûr.
Mais vous faites ce parallèle avec ce qui s'est passé en 843 à Verdun. Verdun qui était le lieu d'une boucherie innommable, on le sait, pendant la Première Guerre mondiale, et vous rappelez que Charles le Chauve, Lothaire et Louis le Pieux, les trois héritiers de Charlemagne, là, eh bien, se sont répartis les royaumes et qu'ils n'ont pas pu conclure un accord unitaire.
C'est ça.
On aurait pu voir une Europe là se créer.
Et bien justement,
en 843.
Oui. Et cette rencontre manquée, avec toutes les conséquences que vous avez rappelées, avec les guerres, les luttes, avec nos cousins germains, si bien nommés.
Au sens propre.
Au sens propre. Ouais. Eh bien, cette lutte, entre guillemets, elle va prendre fin dans ce petit village de l'époque qu'est Colombey les deux églises, qui aujourd'hui est le lieu d'un mémorial si important dédié à De Gaulle. Et je le raconte dans la fin du livre, je peux citer, après avoir découvert ces lieux chargés d'histoire, on se prend à imaginer ce qu'a été la rencontre d'Adenauer et de De Gaulle, lorsque les caméras, les personnes se sont retirés, c'est ce que racontaient les actualités qu'on vient d'entendre. Une fois le cercle devenu restreint, combien pu se dire ces deux grands témoins du XXe siècle, en se retrouvant dans une intimité inédite, sur quels détails ont pu porter leurs échanges, et au matin, lorsque tout était terminé, lorsque leurs chemins sont séparés, peut-être ont-ils secrètement espéré que les conflits anciens ne ressurgiraient pas de sitôt.
Voilà.
Et bien, c'est ça qui est en fait l'intérêt de cette rencontre de Colombey, c'est que ensuite il y aura le traité de l'Élysée qui va suivre dans quelques mois après, et que ce traité de l'Élysée, il est non seulement fondateur pour ce dialogue franco-allemand, mais que plus largement, deux hommes qui avaient peut-être tout à s'opposer ont fait le chemin l'un vers l'autre et sont retrouvés pour, dans l'intimité d'une maison particulière, décider de ce qui allait être nécessaire.
Il faut rappeler, David Chantrane, et vous le décrivez très bien, que la boisserie, la demeure du général de Gaulle qu'on peut visiter aujourd'hui, est en fait tout à fait ordinaire, tout à fait anodine, et que cette rencontre a eu lieu dans un salon qui aurait pu être le salon de n'importe quelle famille bourgeoise de province.
Oui, et justement, ce choc finalement, peut-être qui a dû heurté peut-être Adenauer, on ne sait pas à quoi il s'attendait, eh bien ce choc a peut-être été salvateur parce que justement il s'est dit on peut se parler véritablement à bâton rompu, sans se cacher et sans se dire qu'on le fait pour une grande cause. La grande cause, elle doit venir de nos décisions, de manière simple et accessible. Et cette nuit que va passer Adenauer, qui sera d'ailleurs le seul invité à rester, à dormir chez De Gaulle, eh bien cette nuit-là, elle est fondatrice, elle est fondamentale même pour notre histoire commune européenne.
Une toute dernière question, David Chantrane. On sait que ces deux hommes, Charles De Gaulle et Konrad Adenauer, étaient des catholiques pratiquants. Quel rôle ce socle, ce soubassement a-t-il pu jouer dans cette réconciliation entre ces deux hommes ?
Sans prétendre à comprendre ce qui se passait au milieu de leur cœur et de ce qu'ils ont pu échanger, on peut être persuadé qu'ils ont fait au moins, et c'est ça en cela peut-être que leur chrétienté intimiste a dû jouer, leur conviction religieuse profonde, c'est qu'ils ont fait ce pas vers l'autre et que c'était très difficile, surtout en 58 encore, vu les circonstances politiques et internationales, c'était très difficile de le faire, et ils l'ont fait, alors que beaucoup d'ailleurs de leur entourage leur intimaient de ne pas le faire, ils l'ont fait, et bien leur en
envers et contre tout.
Envers et contre tout.
C'était un peu, d'une certaine façon, on peut dire, une forme de pardon réciproque envers et contre tout.
Parce qu'ils étaient les seuls à pouvoir le faire.
Parce qu'ils étaient les seuls
à pouvoir le faire.
Un grand merci à vous, David Chantrane. Je rappelle que vous êtes historien, vous êtes rédacteur en chef des revues Napoléon Ier et Napoléon III. Vous êtes directeur du patrimoine de la ville de Rueil-Malmaison. Vous avez publié beaucoup, beaucoup de livres autour des deux Napoléons. Et votre dernier tranche sur votre production habituelle, puisque nous l'avons compris tout au long de cette conversation, il s'intitule « Chronique des territoires, comment les régions ont construit la nation ». C'est aux éditions Passé Composé et c'est une excellente façon pour chacun d'entre nous de réviser, de relire, de comprendre à nouveau frais ce qui a fait l'histoire de notre cher et vieux pays, comme disait le général de Gaulle. Un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission ainsi que les références des nombreux livres de David Chantrane sur les sites de RCF et de Radio Notre-Dame. Et vous pouvez évidemment réécouter à volonté l'ensemble de nos éditions des Racines du Présent à partir de n'importe quelle plateforme de podcast, de balado-diffusion. Il vous suffit de taper les Racines du Présent. Merci à tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.